Brothers and sisters,
frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Cette émission est diffusée depuis le Centre Brigham Young Idaho de l'université du même nom. Cette veillée est interprétée dans 40 langues pour les jeunes adultes du monde entier. Je suis Ross David Barron, président du 3e pieu de jeunes adultes de Reesburg en Idaho. Nous souhaitons la bienvenue à Randall L. Reed, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Et nous sommes reconnaissants que Sir Reed l'accompagne ce soir. Nous présenterons plus tard Frère Reed, qui est l'orateur de ce soir. Nous sommes reconnaissants de la présence sur l'estrade de nos 70 interrégions et nous saluons la présence du président de l'Université Brigham Young Idaho, des présidents des pieux de jeunes adultes locaux, ainsi que des administrateurs des séminaires et instituts de religion, des membres du département d'éducation de l'Église avec leurs femmes. Le chœur et la congrégation commenceront cette soirée en chantant le cantique numéro 223 dans le recueil de cantiques anglais, I have done any good. Nous apprécions l'aide d'Edward Poston, qui dirigera la musique, et de Tatiana Hawkes, qui nous accompagnera. Après le cantique, Christina Walker fera la prière d'ouverture.
Cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants et nous nous sentons humbles devant toi d'être ici aujourd'hui et d'être réunis en tant que saints des derniers jours. Nous sommes reconnaissants pour l'Évangile qui est une bénédiction pour chacun de nous et nous prions tandis que nous venons nos cœurs préparer et que les orateurs sont venus préparer. Nous prions pour que l'Esprit soit présent, pour que nous soyons édifiés et pour que nous sachions quoi faire pour devenir plus semblables à toi. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour l'amour que tu as pour chacun de nous, nos assemblées ou nous-mêmes. Nous prions pour avoir le courage de faire ta volonté. Et nous sommes reconnaissants pour l'expiation de Jésus-Christ qui nous permet de nous améliorer. Nous te demandons une bénédiction particulière pour chaque personne sur Terre, afin qu'elle puisse sentir ton amour pour elle. Nous sommes très reconnaissants pour le prophète, le président Manson. Nous prions pour lui. Nous sommes reconnaissants pour le temple, son caractère sacré et la sainteté que nous y ressentons. Nous prions pour que notre foi grandisse et nous sommes très reconnaissants pour son évangile. Nous savons que c'est un évangile de joie et nous prions pour que nous puissions communiquer cette lumière et cette joie à d'autres personnes. À nouveau, nous sommes très reconnaissants pour l'amour et pour la joie présente dans cet évangile. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
This evening, we are joined. Ce soir, nous sommes accompagnés par le chœur de l'Université Brigham Young Idaho qui va interpréter « Seigneur, je te suivrai ». Il est dirigé par Randall Kempton et accompagné à l'orgue par Daniel Kerr. À la suite de l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Frère Reed. À la fin du discours de Frère Reed, le chœur chantera « J'irai où tu veux ». Ensuite, Zachary Harris fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'orateur de ce soir. Randall Reed faisait partie du bureau général des jeunes gens quand il a été appelé comme deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Il a eu beaucoup d'appels dans l'Église, notamment celui de missionnaire à plein temps dans la mission de Mexique Nord et président de la mission Nord de Guayaquil en Équateur. Frère Reed est titulaire d'une licence de l'Université d'Utah, après laquelle il a commencé sa carrière professionnelle chez IBM. Plus tard, il a cofondé une société d'investissement immobilier à Houston. Il travaille actuellement à son compte comme courtier en investissement immobilier et industriel. Sa femme Tamina et lui ont 4 enfants et 8 petits-enfants. Le chœur va maintenant chanter « Seigneur, je te suivrai ».
There is a reason why we start our meetings with beautiful music.
Il y a une raison pour laquelle nous commençons nos réunions avec une belle musique. Elles amènent l'esprit. Merci. Quelle merveilleuse occasion d'être avec vous ce soir. C'est un grand honneur pour ma femme et moi d'être ici ce soir. J'ai constaté avec intérêt que mon téléphone savait que j'avais ce voyage à Rexburg planifié aujourd'hui. Il m'a dit quel temps il ferait, m'a donné une liste d'hôtels et de restaurants en ville. Mon téléphone m'a même parlé de nombreuses attractions disponibles à Rexburg ce week-end. Maintenant que j'y pense, il n'a pas mentionné mon discours parmi ces attractions. Je suppose que c'est à cela qu'on reconnaît que c'est un smartphone, un téléphone intelligent. Bien que votre smartphone ne l'ait pas recommandé, chacun de vous a choisi de passer une heure de son temps avec moi ce soir, une heure qui ne vous sera jamais rendue. J'ai donc la grande responsabilité d'en faire une heure de qualité. Mais je sais aussi que ce que je dirai n'est pas aussi important que ce que l'esprit vous enseignera. Et cela aura une valeur égale à votre engagement à agir selon son inspiration. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est merveilleux de vivre à notre époque. Les sociologues ont appelé ma génération « baby boom », bien que le terme ne s'applique plus guère aujourd'hui. Ils ont appelé la suivante « génération X » et la vôtre « Y » ou « génération du millénaire ». Connu pour votre aisance à vous servir de la technologie et votre adhésion aux médias sociaux, vous êtes plus intelligent et plus instruit que les générations précédentes. Ces traits distinctifs font de vous des personnes de très grande valeur, non seulement dans la société actuelle, mais aussi pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Vous disposez de davantage de choix et de possibilités que jamais auparavant. Comme tant d'autres choses dans la vie, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Un trop grand nombre de choix possibles et la crainte de prendre de mauvaises décisions entraînent souvent une paralysie de la décision, qui est l'un des défis qui se présente à votre génération. Il est plus difficile que jamais de se concentrer. Le progrès technologique est tel que quand vous achetez quelque chose, cela risque de devenir dépassé peu après que vous êtes sorti du magasin. Trop de gens ont peur de s'engager dans quoi que ce soit parce qu'ils se demandent si une meilleure option ne va pas se présenter sous peu. Alors, ils attendent et finissent par ne rien choisir. Dans cet état de passivité, ils sont une proie facile pour la distraction. Le remède à cela, frères et sœurs, et ce dont j'aimerais parler ce soir, tendre vers un objectif dans la vie, l'importance de l'intention réelle. Imaginez un instant que vous vous trouvez à bord d'un canot de sauvetage sur l'océan, avec pour seul paysage le roulis des vagues dans toutes les directions, aussi loin que le regard peut porter. Le canot est équipé de rames, mais dans quelle direction ramer ? Imaginez maintenant que vous avez aperçu la Terre. À présent, vous savez dans quelle direction vous devez aller. La vue de la Terre vous donne-t-elle une motivation, un objectif? Les gens qui ne gardent pas un sens clair de leur objectif sont des dériveurs. Les dériveurs permettent aux vagues du monde de décider de leur destination. La vie du grand écrivain russe Léon Tolstoï, auteur de « Guerre et paix », illustre ce principe. Léon Tolstoï a eu une jeunesse tumultueuse. Ses parents sont morts quand il avait 13 ans. Initié par ses frères aînés dans les voies de l'alcool, des jeux d'argent et de la débauche sexuelle, Léon était moins que diligent dans ses études. À 22 ans, il commença à prendre conscience que sa vie n'avait pas vraiment de sens. Et il écrivit dans son journal « Je vis comme une bête ». 2 ans plus tard, il écrivit « J'ai 24 ans et je n'ai toujours rien accompli ». L'insatisfaction de Tolstoï le motiva à se lancer dans la quête de toute une vie pour trouver essentiellement parler des essais et des erreurs, le but de sa vie, le pourquoi. Avant de mourir à 82 ans, il conclut dans son journal « Tout le sens et toute la joie de la vie consiste à rechercher la perfection et la compréhension de la volonté de Dieu. » Et j'ajouterai « à faire sa volonté ». Quelqu'un a dit que les deux jours les plus importants dans une vie sont le jour où l'on est et le jour où l'on comprend pourquoi on est né. Comme nous avons l'Évangile, nous n'avons pas besoin de consacrer toute notre vie à en découvrir le but. Au lieu de cela, nous pouvons nous attacher à atteindre ce but. Dans Matthieu 5, 48, il est écrit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Je crois que chacun de nous a le désir inné de s'améliorer. Mais comme nous commettons tous des fautes, beaucoup d'entre nous sont convaincus que le but de la perfection est hors d'atteinte. Et il le serait s'il n'y avait pas l'expiation. L'expiation de notre Sauveur rend la perfection possible. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. Et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. Notre Sauveur nous a donné l'espérance qui nous inspire de devenir comme notre Père Céleste. Vous savez, comme Tolstoï l'a découvert, qu'on trouve de la joie au cours du voyage vers la perfection. Votre vie prend un sens nouveau lorsque vous décidez de chercher à faire la volonté du Seigneur. Tad Callister a demandé, « Pourquoi est-il si important d'avoir une vision correcte de cette destinée divine dont les Écritures et d'autres témoignent si clairement ?» Parce qu'une vision plus large s'accompagne d'une motivation plus forte. Fin de citation. Quand j'étais jeune homme, j'avais presque décidé de ne pas partir en mission. Après une année à l'université, une année dans les forces armées, j'avais un bon emploi dans un hôpital où je travaillais comme technicien en radiologie. Un jour, James Pingree, l'un des chirurgiens de l'hôpital, m'invitait à déjeuner. Au cours de notre conversation, le docteur Pingree a découvert que je n'envisageais pas de faire une mission et m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que j'étais un peu âgé et qu'il était probablement trop tard. Il m'a rétorqué que ce n'était pas une très bonne raison et qu'il était parti en mission après avoir fini ses études de médecine. Puis il m'a rendu témoignage de l'importance de sa mission. Son témoignage m'a fait une forte impression. Il m'a amené à prier comme jamais auparavant, avec une intention réelle. Je pouvais trouver de nombreuses raisons de ne pas aller en mission. J'étais timide, si timide que l'idée de faire un discours d'adieu lors d'une réunion de Sainte-Seine était une raison suffisante de ne pas faire de mission. J'avais un travail que j'aimais, j'avais la possibilité d'obtenir une bourse d'études, ce qui ne serait pas possible après une mission. Chose plus importante encore, j'avais une petite amie qui m'avait attendu pendant que j'étais sous les drapeaux. Et je savais qu'elle n'attendrait pas 2 ans de plus. J'ai prié et prié encore pour obtenir la confirmation que mes raisons étaient valables et que j'avais raison. À ma grande frustration, je n'ai pas pu obtenir la réponse facile par oui ou par non que j'espérais. Puis une question m'est venue. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Il m'a fallu reconnaître qu'il voulait que je fasse une mission. Et ma vie a pris un tournant décisif. Est-ce que j'allais faire ce que je voulais faire? Ou allais-je faire la volonté du Seigneur? C'est une question que nous ferions tous bien de nous poser souvent. C'est pour chacun de nous une excellente habitude à prendre tôt dans la vie. Souvent, notre attitude consiste à dire « J'irai où tu veux que je sois et je ferai ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour autant que ce soit où je veux être et ce que je veux faire. » Dieu merci. J'ai choisi de faire une mission. J'ai été appelé à servir dans la mission du Nord du Mexique. Pour mettre fin au suspense, je veux vous dire que ma petite amie ne m'a pas attendu. Mais je l'ai épousée quand même. Elle est l'une des plus grandes bénédictions de ma vie. Sachant que le but de notre vie est de devenir semblable à notre Père Céleste, j'ai découvert qu'il n'y a pas de meilleure école que d'être marié et d'avoir des enfants, pour nous enseigner l'amour que Dieu a pour ses enfants. Sachant ce que je sais, à votre place, je ferai tout mon possible pour aller à l'université. Je crois savoir que les inscriptions ouvertes commencent maintenant. Quand notre fils apprenait tout juste à parler, il avait une curiosité insatiable. Dans son vocabulaire limité, son mot préféré était « pourquoi ?» Si je disais « il est temps de se préparer à aller au lit au lit », il répondait « pourquoi ?»« Je vais au travail. Pourquoi ?»« Faisons la prière. Pourquoi ?»« C'est l'heure d'aller à l'église. Pourquoi ?» C'était vraiment mignon, les 500 premières fois qu'il l'a dit. Mais même après que le côté gentil de la chose a disparu et que c'est devenu un peu exaspérant, j'étais reconnaissant de l'invitation fréquente à examiner le pourquoi de, littéralement, tout ce que je faisais. Je ne suis pas sûr que le choix de la lettre Y, Y en anglais, pour désigner votre génération soit très pertinent. Mais je pense qu'il y a un intérêt à vous considérer comme la génération du « pourquoi » (why en anglais). Il est important dans notre monde actuel de réfléchir au « pourquoi » de ce que vous faites, ce que vous faites. Vivre avec une intention réelle signifie comprendre le « pourquoi » de nos actions et être conscient des motifs qui les sous-tendent. Socrate a dit « une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Méditez sur la façon dont vous passez votre temps et demandez-vous régulièrement pourquoi. Cela vous aidera à acquérir la capacité de voir au-delà du moment présent. Il vaut beaucoup mieux regarder vers l'avant et se demander « pourquoi ferais-je cela ?» que regarder en arrière et dire « pourquoi, mais pourquoi ai-je fait cela ?» Si la seule raison est que Dieu veut que vous le fassiez, cette raison suffit. J'ai appris l'importance de l'intention réelle quand j'étais élève du séminaire. Notre instructeur nous a exhortés à lire le livre de Mormon. Pour suivre nos progrès, il a créé un tableau avec nos noms inscrits sur un côté et les noms des livres inscrits en haut. Chaque fois que nous lisions un livre, une étoile était apposée à côté de notre nom. Au début, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour lire, et je me suis vite retrouvé de plus en plus loin derrière. Stimulé par le sentiment d'embarras et par mon sens inné de la compétition, j'ai commencé à lire. Chaque fois que j'obtenais une étoile, je me sentais bien. Et plus j'obtenais d'étoiles, plus j'étais motivé à lire. Pendant les cours, après l'école, à chaque moment libre. Ce serait une très belle histoire si je pouvais vous dire que j'ai fini premier de la classe, mais ce n'est pas le cas. J'étais pas le dernier non plus, soit dit en passant. Mais savez-vous ce que j'ai gagné en lisant le livre de Mormon? Je sais que vous pensez à un témoignage, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. J'ai gagné des étoiles. J'ai gagné des étoiles parce que c'était pour cela que je lisais. C'était mon intention réelle. Moroni est très clair quand il expliquait comment savoir si le livre de Mormon est vrai. Moroni a dit, « Lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu le Père éternel au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. » Quand j'y repense, je vois que le Seigneur a été totalement juste avec moi. Pourquoi aurais-je dû m'attendre à trouver quoi que ce soit d'autre que ce que je cherchais? Je ne me suis jamais vraiment arrêté pour me demander pourquoi je lisais le livre de Mormon. Je dérivais en laissant des motivations profanes me guider. Et j'ai découvert au bout du compte que j'avais lu le bon livre pour une mauvaise raison. Avoir une intention réelle, c'est faire la bonne chose pour la bonne raison. Ce n'est que des années plus tard, lorsque j'avais du mal à décider si je devais aller ou non en mission, que j'ai lu les livres de Mormon avec une intention réelle. Si je devais passer 2 ans à rendre témoignage de ce livre, il fallait d'abord que j'aie un témoignage. Je sais que le livre de Mormon remplit son objectif divin de témoigner de la vie et de la mission de Jésus-Christ, parce que je l'ai lu avec une intention réelle. Je vais vous raconter une parabole moderne que j'appellerai la parabole des oranges. En écoutant, réfléchissez à ce que cette histoire vous enseigne sur le pouvoir de l'intention réelle. Il y avait un homme qui avait l'ambition de travailler pour une entreprise parce qu'on y était très bien payé et qu'elle était prestigieuse. Il prépara son CV et eut plusieurs entretiens. On lui offrit finalement un poste de débutant. Il dirigea alors son ambition vers son but suivant, un poste de superviseur, qui lui offrirait un prestige encore plus grand et une meilleure rémunération. Il s'acquitta donc des tâches qu'on lui confiait. Il venait tôt certains matins et restait tard pour que le patron voie qu'il ne comptait pas ses heures. Au bout de 5 ans, un poste de superviseur vint à être disponible. Mais à la grande consternation du jeune homme, un autre employé, qui ne travaillait pour l'entreprise que depuis 6 mois, obtint la promotion. Le jeune homme était très en colère. Il alla trouver son patron pour demander une explication. Le patron dit avec sagesse, « Avant que je réponde à vos questions, voudriez-vous me rendre un service ?»« Oui, bien sûr, » dit l'employé. « Pourriez-vous aller au magasin acheter des oranges ?»« Ma femme en a besoin. » Le jeune homme accepta, alla au magasin. Quand il revint, le patron demanda, « Quel genre d'orange avez-vous acheté ?»« Je ne sais pas, » répondit le jeune homme. « Vous avez seulement dit d'acheter des oranges. Ce sont des oranges, les voici. »« Combien ont-elles coûté ?» demanda le patron. « Je ne suis pas sûr. Vous m'avez donné $30. » « Voici votre reçu et votre monnaie. »« Merci, » dit le patron. « Maintenant, veuillez vous asseoir et être très attentif. » Le patron appela alors l'employé qui avait obtenu la promotion et lui confia la même tâche. Le jeune homme accepta et alla au magasin. Quand il revint, le patron demanda, « Quel genre d'orange avez-vous acheté ?»« Eh bien, » répondit-il. Le magasin en avait de différentes variétés, des navels, des valencia, des sanguines, des mandarines et beaucoup d'autres, et je ne savais pas quelle variété acheter. Mais je me suis souvenu que vous aviez dit que c'était pour votre femme. Alors je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle organisait une fête et qu'elle allait faire du jus d'orange. J'ai donc demandé aux commerçants lesquels de toutes ces oranges feraient le meilleur jus d'orange. Il a dit que les Valencia étaient pleines d'un jus très sucré. Alors, c'est ce que j'ai acheté. Je les ai déposés chez vous en revenant au bureau. Votre femme était très contente. Combien ont-elles coûté ? Demanda le patron. Eh bien, c'était un autre problème. Je ne savais pas combien en acheter. Alors j'ai rappelé votre femme et je lui ai demandé combien d'invités elle attendait. Elle m'a dit qu'elle en attendait 20. J'ai demandé au commerçant combien d'oranges il faudrait pour faire du jus pour 20 personnes. Et cela faisait beaucoup. Je lui ai donc demandé s'il pouvait me faire un prix de gros. Et il a accepté. Ces oranges coûtent normalement 60 centimes pièce, mais je les ai payées 40 centimes. Voici votre monnaie et votre reçu. Le patron sourit et dit, « Merci, vous pouvez disposer. Il jeta un coup d'œil au jeune homme qui avait observé. Celui-ci se leva, les épaules basses, et dit, en sortant tristement du bureau, « Je vois ce que vous voulez dire. » Quelle différence y avait-il entre ces deux jeunes hommes? On leur a demandé à l'un comme à l'autre d'acheter des oranges, et ils l'ont fait. On pourrait dire que l'un d'eux a fait le deuxième mille, ou que l'un d'eux a été plus efficace, ou que l'un d'eux s'est davantage soucié des détails. Mais la différence la plus importante réside dans l'intention réelle, non dans le fait de se contenter de suivre le mouvement. Le premier jeune homme était motivé par l'argent, le poste et le prestige. Le deuxième était mu par le désir intense de plaire à son employeur et par un engagement intérieur à être le meilleur employé possible. Et le résultat était évident. Comment pouvez-vous appliquer cette parabole dans votre vie? En quoi vos efforts dans votre famille, à l'école, au travail et dans l'église pourraient-ils être différents si vous cherchiez toujours à plaire à Dieu et à faire sa volonté, s'ils étaient motivés par votre amour pour lui? Combien de fois vous êtes-vous installé à l'ordinateur pour faire vos devoirs ou une tâche professionnelle quand soudain surgit une publicité pour quelque chose que vous avez acheté récemment? Puis, alors que vous parcourez les sites de magasins en ligne, vous remarquez que quelques-uns de vos amis sont en ligne. Alors vous commencez à converser avec eux. Ensuite, vous recevez une alerte indiquant qu'un ami a publié quelque chose sur Facebook. Il faut absolument que vous voyez ce que c'est. Avant même d'en avoir pris conscience, vous avez perdu un temps précieux et oublié pourquoi vous étiez à l'ordinateur à l'origine. Si souvent, la distraction prend la place de l'action. Les distractions vous volent le temps que vous auriez pu investir dans de bonnes actions. La capacité de concentration nous aide à éviter les distractions. Je sais que vous aimez tous passer des tests. Alors ce soir, je vais vous faire passer un test rapide portant sur votre capacité de concentration. J'explique. Vous allez voir deux équipes, l'une vêtue de blanc et l'autre vêtue de noir. Elles vont se faire des passes avec un ballon de basket. Et je veux simplement que vous comptiez le nombre de passes faites par l'équipe en blanc. Alors, vous êtes prêts?
OK.
Combien de passes avez-vous compté? Levez la main si vous avez compté 19 passes. Combien en ont compté 20? Combien en ont compté 21? Combien en ont compté 22? La bonne réponse est 21. 21 passes. Tous ceux qui ont compté 21 passes, levez la main. Gardez la main levée si vous avez aussi vu une femme âgée traverser le terrain en marchant, puis en faisant un moonwalk. Maintenant, gardez la main levée si vous avez vu une ninja remplacer un des joueurs vêtus de noir. Avez-vous vu des joueurs de l'équipe vêtus de noir mettre un chapeau? Regardez de nouveau et concentrez-vous sur quelque chose que vous n'avez pas vu la première fois. Nous mettrons cette vidéo en ligne ultérieurement sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez trouver ce que vous n'avez pas vu. Notre concentration dans la vie est très importante. Comme ce test le démontre, nous trouvons habituellement ce que nous cherchons. Ou comme les Écritures le disent, « Cherchez et vous trouverez ». Si nous nous concentrons sur les choses du monde, nous pouvons passer à côté de tout un monde spirituel qui se trouve tout autour de nous. Nous risquons de ne pas être capables de reconnaître les murmures spirituels que le Saint-Esprit est désireux de nous donner pour diriger notre vie et faire du bien aux autres. Inversement, si nous nous concentrons sur les choses de l'Esprit et sur ce qui est vertueux, aimable, de bonne réputation ou digne de louange, nous sommes moins susceptibles d'être distraits par les tentations et les distractions du monde. Le meilleur moyen d'éviter les distractions est de fixer notre attention sur notre objectif et d'œuvrer avec zèle à une bonne cause. Veillez à votre concentration. Ne passez pas de temps de votre attention fixée sur l'ascension d'une montagne pour vous rendre compte ensuite que vous avez gravi la mauvaise. 35 ans après que j'ai corrigé mon attention et décidé de faire une mission, mon fils m'a invité à me rendre au Mexique avec lui, dans l'espoir de trouver quelques-unes des personnes que j'avais instruites. Nous avons assisté à une réunion de Sainte-Seine dans la petite ville où j'avais commencé ma mission, pensant que je pourrais reconnaître quelqu'un, mais pas une seule personne. Après la réunion, nous avons demandé à l'évêque s'il reconnaissait qui que ce soit sur ma liste de gens que nous avions instruits et baptisés. Pas une seule personne. Il a expliqué qu'il n'était membre que depuis 5 ans. Il a suggéré que nous parlions à un autre homme qui était membre depuis 27 ans. Une piste incertaine, mais qu'il valait la peine d'explorer. J'ai parcouru ma liste avec lui sans succès, jusqu'à ce que nous arrivions au dernier nom, Leonor López de Enriquez. Il a dit, « Oh oui, cette famille appartient à notre paroisse, mais elle tient ses réunions dans ce bâtiment. Leur réunion de Sainte-Seine va bientôt commencer. Il devrait être ici sous peu. » Nous n'avons attendu qu'une dizaine de minutes avant que Léonore rentre dans le bâtiment. Bien qu'elle ait maintenant près de 75 ans, je l'ai reconnue immédiatement. Elle m'a reconnu. Nous nous sommes étreints longuement en larmes. Elle a dit, « Nous avons prié pendant 35 ans pour que vous reveniez, pour que nous puissions vous remercier d'avoir apporté l'Évangile à notre famille. D'autres membres de la famille sont entrés dans le bâtiment et nous nous sommes étreints et nous avons pleuré ensemble. Du coin de l'œil, je voyais mon fils avec 2 missionnaires à plein temps qui essuyaient leurs larmes avec leurs cravates. En assistant à la réunion de Sainte-Seine, c'était impressionnant de découvrir que l'évêque était un des fils de Léonore, le pianiste un petit-fils, la directrice de musique une petite-fille. Il y avait plusieurs jeunes gens de la prêtrise Aaron qui étaient des petits-fils. Une des filles était mariée à un des conseillers dans la présidence de Pieux. Une autre fille était mariée à l'évêque d'une paroisse voisine. La plupart des enfants de Léonore avaient fait une mission. Et maintenant, des petits-fils en ont fait une aussi. Nous avons découvert que Léonore était une bien meilleure missionnaire que nous l'étions. Aujourd'hui, ses enfants se rappellent avec gratitude ses efforts infatigables pour leur enseigner l'Évangile, l'importance de la dîme et des temples, de l'étude des Écritures et de la prière, et de la foi pour y placer sa confiance. Elle leur a enseigné que les petites décisions, avec le temps, font une vie remplie, juste et heureuse. Et ils ont enseigné ces choses aux autres. Additionné tout cela, et ce sont plus de 500 personnes qui sont entrées dans l'Église grâce à cette seule famille merveilleuse. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le Seigneur voulait que j'aille en mission. Cela m'a enseigné les conséquences éternelles qu'a notre désir de connaître la volonté du Seigneur. Tout a commencé par une simple conversation lors d'un déjeuner. Je pense souvent que si le docteur Pingree avait été plus concentré sur sa carrière ou d'autres intérêts profanes, il aurait pu ne jamais me demander pourquoi je ne partais pas en mission. Mais son attention était fixée sur les autres et sur l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Il a planté une graine qui a grandi et porté du fruit et poursuit sa croissance exponentielle. Les pensées inspirées produisent de bonnes actions. Les bonnes actions produisent d'autres bonnes actions et ainsi de suite, éternellement. Dans Marc 4:20, on lit « Ce sont ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. » L'idée que de petits actes simples, mais réfléchis, peuvent avoir des conséquences importantes est bien illustrée dans les Écritures. Alma enseignait à son fils Élaman, c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Et c'est par de très petits moyens que le Seigneur confond les sages et réalise le salut de nombreuses âmes. L'une des premières leçons que l'on devrait apprendre dans la vie est qu'il découle un grand pouvoir de l'effet cumulé des petites choses que l'on fait chaque jour. Des choses petites et simples sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment même. Elles travaillent pour ou contre vous. De même que le Seigneur utilise ces choses pour vous édifier, de même Satan les utilise pour vous distraire et vous conduire doucement, presque imperceptiblement, hors du chemin. Notre difficulté réside dans le fait que quand nous voyons une famille merveilleuse ou une personne qui connaît la réussite financière ou un géant spirituel, nous ne voyons pas tous les actes petits et simples qui ont produit ce résultat. Nous regardons les athlètes lors des Jeux olympiques, mais nous ne voyons pas les années d'entraînement quotidien qui ont fait d'eux des champions. Nous allons au magasin acheter des fruits frais, mais nous ne voyons pas les semailles, ni la culture et la récolte attentionnée. Nous regardons le président Monson et d'autres autorités générales, et nous sentons leur force spirituelle et leur bonté. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est la simple discipline quotidienne appliquée jour après jour. Ces choses sont faciles à faire, mais elles sont aussi faciles à ne pas faire, en particulier parce que les résultats ne sont pas instantanés. Nous vivons dans un monde instantané. Nous voulons passer directement des semailles à la récolte. Nous sommes tellement habitués à obtenir des résultats instantanés, nous nous irritons dès que nous devons attendre plus de quelques secondes pour que Google réponde à chacune de nos questions. Mais nous oublions que ce résultat sont l'effet cumulé de générations de travail et de sacrifices. Alma donne à Élaman un conseil qui est excellent pour nous aujourd'hui. Parlant du Liaona et de beaucoup d'autres miracles qui ont guidé la famille de Léhi jour après jour, il dit « Parce que tous ces miracles étaient accomplis par de petits moyens, cela leur montrait des œuvres merveilleuses. Ils étaient paresseux et oubliaient d'exercer leur foi et leur diligence. Et alors, ces œuvres merveilleuses cessaient et ils ne progressaient pas dans leur voyage. Ô mon fils, ne soyons pas paresseux à cause de la facilité du chemin, car il en fut ainsi pour nos pères, car il était préparé pour eux de telle sorte que s'ils regardaient, ils pourraient vivre. De même en est-il pour nous. Le chemin est préparé, et si nous regardons, nous pouvons vivre à jamais. Et maintenant, mon fils, veille à prendre soin de ces objets sacrés. Oui, veille à regarder vers Dieu et à vivre. Je veux souligner trois moyens petits et simples de regarder vers Dieu, qui nous aideront à garder notre attention fixée sur notre objectif éternel. Aucun d'eux ne vous surprendra. Vous les avez entendus à de nombreuses reprises. Mais je témoigne que faire ces choses avec constance et avec une intention réelle change les choses. En fait, cela change tout. Si vous compreniez vraiment le pourquoi de ces pratiques simples, vous en seriez indubitablement une priorité absolue dans votre vie. Premièrement, lorsque nous prenons la Sainte Cène, trop souvent nous le faisons de façon passive. En regardant cette vidéo, remarquez l'accent qui est mis sur le fait de se souvenir et réfléchissez à l'importance que cela a. Vers la fin du dernier repas de la Pâque, qui avait été spécialement préparé, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Depuis cette expérience dans la chambre haute à la veille de Gethsémané et du Golgotha, les enfants de la promesse sont tenus par alliance de se souvenir du sacrifice du Christ de cette manière nouvelle, plus élevée, plus sacrée et plus personnelle. Par un gobelet d'eau, nous nous souvenons du sang du Christ versé pour nous et de la profondeur de sa souffrance spirituelle. Par un morceau de pain, toujours rompu, béni puis offert, nous nous souvenons de son corps meurtri et de son cœur brisé. Dans le langage simple et beau des prières de Sainte Cène que prononcent ces jeunes prêtres, le mot principal que nous entendons semble être souvenir. Si nous souvenir est notre tâche principale, que pourrions-nous nous rappeler quand ces emblèmes simples et magnifiques nous sont présentés?
And this,
et ce sera un témoignage pour le Père que vous vous souvenez toujours de moi. Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez son esprit avec vous. En se souvenant de lui et en gardant ses commandements, pensez à l'effet que cela a d'avoir toujours son esprit avec nous dans tous les domaines de notre vie. Réfléchissez à la façon dont l'effet cumulé de la compagnie constante de son esprit influencerait chaque domaine de notre vie et l'influence que cela aurait sur nos décisions quotidiennes et notre perception des besoins des autres. Il y a d'innombrables façons dont nous pouvons tenir notre promesse de nous souvenir toujours du Sauveur au cours d'une journée. Comment allez-vous vous souvenir toujours de lui? La plupart d'entre vous diront, en priant, en étudiant les Écritures, et vous aurez raison si c'est un grand, si vous le faites avec une intention réelle. La prière et l'étude des Écritures sont les deux choses petites et simples que je voudrais souligner ensuite. Le Seigneur a dit clairement à quel point nos prières sont inefficaces quand nous les faisons par habitude. Cela est imputé comme mal à un homme s'il prie et ne le fait pas avec une intention réelle du cœur, oui, et cela ne lui profite en rien, car Dieu ne reçoit aucun de cela. L'intention réelle de la prière est d'ouvrir une communication à double sens avec notre Père Céleste, avec l'intention de suivre ses recommandations, quelles qu'elles soient. Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien, oui, lorsque tu te couches le soir. Couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. La prière et l'étude des Écritures vont naturellement de pair. Quand nous étudions les Écritures et les paroles de nos prophètes actuels, cela amorce la pompe de la révélation personnelle. Les exemples et les avertissements que nous trouvons dans les Écritures façonnent nos désirs. C'est de cette façon que nous apprenons à connaître la volonté du Seigneur. Les prophètes, passés et présents, nous ont enjoints de faire des choses petites et simples, comme prier et étudier les Écritures. Alors pourquoi tout le monde ne les fait-il pas? Peut-être qu'une des raisons en est que nous ne voyons pas nécessairement les importantes conséquences négatives si nous manquons un jour ou deux. Tout comme vos dents ne pourrissent pas et ne tombent pas la première fois que vous oubliez de les brosser. La plupart des conséquences positives et négatives arrivent plus tard, avec le temps. Mais elles arrivent. Il y a des années, j'ai planté deux arbres de la même espèce et de la même hauteur dans mon jardin. J'en ai planté un dans un endroit où il recevait un peu de soleil tous les jours, et l'autre dans un endroit où il bénéficiait d'un plein ensoleillement. Au cours de l'année suivante, je n'ai pas remarqué une grande différence dans la croissance des deux arbres. Mais ensuite, ma femme et moi sommes partis remplir une mission de 3 ans. Quand nous sommes revenus, la différence m'a causé un choc. L'effet cumulé d'un petit supplément de soleil chaque jour a causé une différence énorme au fil du temps dans la croissance des arbres. La même chose se produit dans notre vie lorsque nous nous exposons chaque jour à la source de toute lumière. Et il se peut que nous ne remarquions pas un changement immédiat, mais soyez assurés qu'un changement se produit en vous et le résultat se verra avec le temps. Cette simple idée de l'effet cumulé de la discipline quotidienne avec un objectif et une intention réelle peut changer grandement les choses dans tous les aspects de votre vie. Cela peut être la différence qu'il y a entre se débattre dans une vie ordinaire ou connaître une grande réussite et remplir la mesure de votre création. J'ai souvent repensé à ma vie et je me suis demandé pourquoi il m'avait été si difficile de prendre la décision de faire une mission. Cela a été difficile parce que j'avais été distrait. J'avais perdu la vision de mon objectif éternel. Mes désirs et ma volonté n'étaient pas en phase avec la volonté du Seigneur. Sinon, la décision aurait été plus facile à prendre. Et pourquoi n'était-il pas en phase? J'allais à l'église et je prenais la Sainte Cène le dimanche, mais sans porter attention à sa signification. Je priais, mais essentiellement de manière mécanique. Je lisais les Écritures, mais seulement de temps à autre et sans intention réelle. J'espère qu'en écoutant aujourd'hui, vous avez ressenti, par les murmures de l'Esprit, ce que vous devez faire pour mener une vie réfléchie et concentrée. Je vous recommande de suivre ces inspirations. Ne vous laissez pas décourager en pensant à ce que vous avez déjà fait ou n'avez pas fait. Laissez le Seigneur effacer cette ardoise. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Aussi souvent qu'ils se repentaient et recherchaient le pardon avec une intention réelle, ils étaient pardonnés. Commencez maintenant. Menez une vie guidée par un objectif. Mettez en place le pouvoir de l'accumulation des pratiques quotidiennes dans les domaines importants de votre vie. Je vous promets que dans 1 an, soit vous serez heureux d'avoir commencé aujourd'hui, soit vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Je vous invite à méditer sur ces 3 questions. Et vous invite à les publier, les réponses à ces questions sur les réseaux sociaux avec LDS Devo. Premièrement, est-ce possible? Vous est-il possible de faire ces 3 choses petites et simples? Pouvez-vous vous efforcer de respecter votre alliance, de prier, de toujours vous souvenir de lui? Pouvez-vous prendre le temps de prier avec une intention réelle et d'étudier les Écritures quotidiennement? Deuxièmement, est-ce que cela va marcher? Croyez-vous réellement à la promesse du Seigneur? Croyez-vous que l'effet cumulé de la compagnie constante de son Esprit aura une influence profonde sur tous les aspects de votre vie? Et finalement, cela en vaut-il la peine? Je témoigne que cela en vaut la peine et que cela fait toute la différence. Si vous le faites, vous découvrirez que la raison la plus importante de faire tout ce que vous faites est que vous aimez le Seigneur et êtes conscient de son grand amour pour vous. Puisse chacun de vous connaître une grande joie à rechercher la perfection et à comprendre et faire sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Our dear Father in heaven,
notre cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour l'honneur que nous avons eu de nous réunir pour être enseignés à la fois par Frère Reed et par l'Esprit. Et nous sommes reconnaissants pour notre Sauveur et pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions devenir meilleurs chaque jour. Aide-nous, Père Céleste, à reconnaître les petites choses dans notre vie qui nous rapprocheront de toi. Nous t'aimons et nous prions pour ta patience, tandis que nous cherchons à devenir meilleurs chaque jour. S'il te plaît, veuille nous accorder ta grâce et le pouvoir fortifiant de l'expiation. Nous te demandons maintenant de nous permettre de faire connaître à d'autres personnes ce message que nous avons reçu. Aide-nous, Père, tandis que nous ferons les petites choses qui nous rendront meilleurs. Et nous offrons notre prière dans notre désir sincère d'avoir ton amour et ta patience. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.